chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Brigitte Stora, essayiste, auteure de fiction radiophonique sur la radio, les radios publiques, notamment en France. Bonjour Madame Stora.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer un mouvement auquel vous appartenez qui s'appelle les Guerrières de la Paix. J'aimerais tout simplement que vous nous rappeliez les missions principales et les fondements de ce mouvement.
Les Guerrières de la Paix, c'est d'abord, au début, c'était un documentaire réalisé par Anna Assouline sur des mouvements de paix en Israël et en Palestine qui unissaient donc des femmes juives et arabes. Suite à ce documentaire, on a décidé de créer une association en France. Non pas pour dire que c'était la même chose ici, bien sûr, mais parce qu'il y avait beaucoup de tensions, enfin on le sait, hein, avec une montée de l'antisémitisme et aussi une montée du racisme, et puis surtout des assignations à résidence communautaire, et puis surtout la presque sommation de devoir choisir l'un ou l'autre, et même pire, l'un contre l'autre de ces combats. Alors que nous, notre certitude, c'est que précisément, on peut bien les mener que si on les mène ensemble. Donc, on a créé cette association. C'est surtout des jeunes femmes. Hein. Moi, je suis un petit peu à l'arrière. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ce sont des jeunes femmes de tout horizon. Hein. On a créé il y a un an donc, un grand forum, c'était à Essaouira. Un forum international de femmes pour la paix qui réunissait des femmes de beaucoup, beaucoup de pays, des israéliennes, palestiniennes, mais aussi iraniennes, afghanes, sénégalaises, pour dire qu'il y avait une solidarité internationale des femmes, que c'était ça le féminisme, c'était se sentir à chaque fois solidaire partout de ce que les femmes pouvaient vivre. Et puis surtout, se dire qu'on avait peut-être une force de vie, une force de proposition, une force... Là-bas, il y avait des Israéliennes et des Palestiniennes qui nous ont dit « Nous allons faire une grande marche de la paix le 4 octobre 2023, rejoignez-nous ». C'est ce qu'on a fait avec cette délégation et on était donc en Israël et dans les territoires palestiniens, pas à Gaza, en Cisjordanie, du 30 septembre au 6 octobre. Voilà, on est rentré le 6 octobre dans la nuit, ça ne s'invente pas. Et pendant 6 jours, on avait été à la rencontre donc, de militants de la paix, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. On était revenus d'ailleurs avec, bien sûr, une certaine gravité par rapport à... On sentait bien hein, que les choses étaient quand même assez catastrophiques là-bas, mais pleines d'espoir quand même de ces rencontres. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé. Le monde s'est effondré. Et on a décidé, en France... Vraiment par fidélité à ces combats, à ces gens qui, là-bas, au milieu de la tourmente, continuent à y croire. On a voulu relayer la paix ici, déjà, se dire qu'il y avait de la place au moins pour de souffrances, de chagrins. Et donc, il y a eu des manifestations, il y a eu des colloques, il y a eu des... comme le colloque qu'on a organisé à la Colline, par exemple, fin septembre.
Peut-être préciser un petit peu ce colloque.
Alors, le théâtre de la Colline, donc c'est ce théâtre dans le 20e arrondissement. Écoutez, il y avait 1000 personnes, et on n'a pas pu accueillir tout le monde. Et on a fait venir des gens, donc Ali Abou Awad, des gens qui sont... israéliens et palestiniens et qui disent en gros la même chose, c'est-à-dire qu'il y a deux peuples là-bas, il n'est pas question d'en exterminer l'un ou l'autre, il n'est pas question que les 7 millions de Palestiniens un jour se volatilisent, pas plus qu'il est question que les 7 millions de Juifs disparaissent. Donc à partir de là, il est plus que temps de comprendre qu'il y a une double légitimité et que la solution ne peut venir justement que de cette reconnaissance mutuelle. Il y avait toutes sortes de gens qui sont venus témoigner. Il y a Standing Together, qui sont un groupe assez important, qui prône justement la coexistence, la solidarité, mais qui, là, face à la guerre, ont eu maille à partir avec le gouvernement Netanyahou et ses sbires d'extrême droite, parce qu'on en est quand même là, puisqu'ils ont même été jusqu'à empêcher des camions humanitaires de passer à Gaza. Donc ces gens-là viennent et permettent aux camions de passer. Ils ont un discours partout qui permet déjà de voir la réalité humaine.
Ça rend compte aussi du fait que la société israélienne reste une société vivante et pleine de débats malgré la situation et le fait que les gens doivent aller faire la guerre.
Bien sûr, avant le 7 octobre, il y avait d'immenses manifestations en Israël, on le sait, jusqu'à 500 000 personnes pour demander la destitution de Netanyahou. Là, il y a eu une forme de vitrification après le 7 octobre, ça c'est clair. Mais il y a quand même... on a bien vu, que y compris le sort des otages, apparemment, ça lui est égal. On voit que la poursuite de la guerre coûte que coûte, apparemment, coïncide aussi avec ses propres intérêts. Il y a quand même, Dieu merci, si je peux me permettre, une opposition en Israël, oui. Et de toute manière, on est en face de réalité humaine. C'est-à-dire qu'on est en face, non pas d'anges, de démons, de fantasmes, mais de gens, qui sont fondamentalement les mêmes sur la planète et qu'il s'agit de regarder, d'écouter dans leur humanité.
Justement, cette approche universaliste de la question humaine, si je reviens en France, on a depuis le 7 octobre vécu des choses tout à fait étranges. Alors, on est prisonnier, évidemment, des réseaux sociaux, des médias, de la simplification, évidemment, des débats. Mais il y a quand même des difficultés en France, pour certains mouvements, notamment liés au monde juif, de s'exprimer et même de défiler dans la rue, notamment dans le monde du féminisme. Nous, comme téléspectateurs, nous avons vu des femmes juives qui n'ont pas pu ou qui ne pouvaient pas manifester aux côtés de gens qui utilisent la guerre et notamment la position palestinienne pour empêcher des gens, parce qu'ils sont juifs, de s'exprimer. Je voulais savoir un petit peu quel était votre point de vue et quelle était la dimension de cette réalité sur Paris notamment.
Oui, j'étais à l'origine d'une tribune qui est parue dans l'Express l'an dernier, justement suite à la mise à l'écart d'un groupe de femmes juives, c'était l'an dernier, et je pense que ça s'est... C'est pas reproduit, mais il y a eu encore une forme d'exclusion, même cette année. Nous disions des choses très banales, Le féminisme sans internationalisme, le féminisme qui consent à l'antisémitisme, n'est pas le féminisme. De la même manière que la gauche qui consent à l'antisémitisme n'est plus de gauche. Et c'est bien l'objet aussi de mon livre, peut-être dont on reparlera plus tard, mais l'antisémitisme nous concerne, puisqu'il s'agit d'une démission de soi autant que d'un abandon des autres. Donc oui, depuis le 7 octobre, beaucoup de choses se sont libérées. C'est des choses qui étaient déjà là avant, et qui ont trouvé là l'occasion d'exploser, donc dans la haine de l'autre, dans la guerre à distance, les vieux procès, parce qu'il s'agit toujours quand même de très très vieux procès qui sont faits aux Juifs. Ils ont pris la place des autres, pour qui ils se prennent, les génocides, il y a quand même des choses qui reviennent, et où on a vraiment l'impression, c'est ça qui est quand même terrible, que beaucoup de choses se règlent, de comptes se règlent par rapport à la conscience européenne, par rapport à la Shoah, par rapport au colonialisme, à travers ce conflit, Comme si ce conflit, finalement, était déshumanisé, au sens où les gens là-bas ne sont finalement que des supports de fantasmes.
De représentation, voire de projets politiques.
Oui. Les uns comme les autres, c'est bien ça le problème.
Alors, vous évoquiez votre dernier livre, « L'antisémitisme, un meurtre intime », qui est publié aux éditions Le Bord de l'eau, dans la collection Documents. Dans ce livre, vous dites des choses très très fortes, qui montrent un peu aussi votre inquiétude. D'ailleurs, il y a dans votre conclusion une phrase qui est terriblement importante. Je la cite, et c'est sans doute aussi cela que le juif incarne pour l'antisémite, la condition humaine et son inconsolable malheur, celle qu'il entend fuir dans une soif de mort mêlée d'éternité. Alors c'est très concentré comme phrase, ça renvoie à beaucoup de chapitres de votre livre, peut-être nous éclairer sur votre inquiétude autour de l'antisémitisme et de ces nouvelles manifestations.
L'antisémitisme, à mon avis, oui, arrive quand il y a une absence d'horizon d'émancipation. C'est-à-dire quand les gens sont renvoyés à eux-mêmes dans leur solitude, dans la douleur de la condition humaine, oui, bien sûr. Dans cette peur de la mort qui nous est toute commune. Et je pense que dans une situation comme la nôtre, où on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, où on a l'impression qu'on a été dépossédé de notre propre devenir, des grandes explications qui sont autant politiques qu'existentielles, si je peux me permettre, comme, c'est de la faute aux Juifs. Hein. Y a un grand coupable à l'origine de tous nos malheurs. C'est quand même ça, l'antisémitisme à la base. C'est ce moment moderne, à mon avis, de l'antijudaïsme chrétien qui a postulé une culpabilité originelle. Et cette culpabilité originelle se confond avec l'altérité originelle. Cet autre, dont je dis qu'il nous est intime, quand je parle de l'autre, c'est de tout autre, évidemment, hein, puisque le juif a pris cette place-là de l'altérité un petit peu emblématique, mais en réalité, il y a toujours un autre dont on doit répondre et qui est à l'origine du courage, à l'origine de la responsabilité et à l'origine de l'émancipation politique, de la condition de... Aujourd'hui, ce repli sur soi, ce rejet de tout autre, je dis bien, avec un grand A, il est commun à beaucoup d'idéologies. On a l'impression que c'est ça qui est en train de triompher, même si on a paradoxalement des sociétés où en même temps il y a quand même un brassage culturel, réel. On l'a vu par exemple au JO, ça nous a tous fait plaisir. On s'est dit, mais finalement le monde il est comme ça. Il avance de ce côté-là, du côté d'une plus grande inclusivité, du côté, on a eu après les Jeux paralympiques, qui pour moi a été aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que bon, ça y est, on remet en question le patriarcat, l'homophobie, le racisme sous toutes ses formes. Et il y a des gens qui freinent. Il y a des gens qui freinent de toute leur force et qui arrivent sur ces programmes-là à prendre le pouvoir. Ils ont pratiquement le même discours et le même programme partout. Enfin, bon, la Trump aujourd'hui qui est arrivé à la tête des États-Unis, à la présidence des États-Unis, c'est catastrophique. Et ils ont un discours de suprémacisme, de grandeur perdue. Et ça, c'est commun. C'est commun à Poutine, c'est commun aux islamistes, c'est commun à...
Avec la question de l'humiliation, enfin, une prétendue humiliation.
Oui, toujours. Donc l'autre, voilà, l'autre n'est plus, comme le disait Fanon, une promesse. Hein. L'autre devient tout à coup une menace. Et dans cette idée d'une menace de l'autre originel, oui, le juif est bien placé, on va dire qu'il a...
Et justement, à l'heure où les opinions publiques, alors européennes, sont clivées, parce que regarde finalement ces conflits, parce qu'on peut parler au pluriel de ces conflits finalement de loin, où chacun en fait manque de nuances et un petit peu crispé dans son coin, quels outils pourraient permettre justement de faire des pas chacun les uns vers les autres, sans tomber dans des logiques qui finalement restent assez réactionnaires, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Comment peut-être faire avancer les opinions et faire des pas ?
On a commencé tout à l'heure avec les guerrières de la paix. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres groupes, heureusement, qui soient antiracistes, qui soient... Il s'agit de jamais perdre de vue notre boussole, quoi. Et notre boussole, c'est qu'on appartient à une seule humanité. Il n'y a pas d'autre discussion. Qu'un mort vaut un mort partout, que on ne fait pas d'alliance contre l'antisémitisme avec des racistes, comme l'extrême droite voudrait nous le faire croire, parce que c'est quand même un vrai sujet. On ne fait pas d'alliance antiraciste avec les antisémites, comme certains voudraient aussi nous le faire croire. C'est antinomique. Voilà, il y a une seule humanité, il y a une seule solution. On la connaît, la solution. En Israël, en Palestine et partout dans le monde, on la connaît, la solution. Il s'agit de faire place à l'autre, il s'agit de reconnaître son histoire, il s'agit de se retirer, de ne pas prendre toute la place. C'est une histoire qui est vraie sur le plan personnel, qui est à l'origine de tous les drames, de voilà, en amour, en amitié.
Et s'écouter peut-être.
Et voilà, écouter l'autre et se dire qu'il a une totale légitimité.
Alors, les guerrières de la paix dont vous parlez, c'est peut-être un des instruments importants, en tout cas dans le monde, on va dire, féminin.
Oui, enfin, parmi d'autres.
Et à Paris, en particulier.
Il y a une modestie nécessaire, bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas, c'est peu connu et peu important, disons, dans notre province, très clairement. Mais ceci dit, c'est important qu'on y revienne, notamment par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure en aparté, la question du consentement. C'est-à-dire que beaucoup de gens, effectivement, ne semblent pas intéressés par tout ce dont on parle là, notamment cette guerre-là. Mais en même temps, par rapport à l'antisémitisme, à ces manifestations quand même de plus en plus importantes depuis le début des années 2000, vous le dites dans votre livre, dans l'avant-propos, quand vous parlez de... C'est la suite de votre livre, de comment comprendre l'antisémitisme, vous dites, d'où tient-il cette force, l'antisémitisme, d'où tient-il cette force inouïe qui lui permet chaque fois d'aborder un masque acceptable en suscitant encore et toujours le même consentement. Qu'est-ce qu'il en est justement de cette question du consentement aujourd'hui? Comment vous le percevez? Et en quoi des mouvements comme celui que vous mettez en valeur peuvent contribuer peut-être à autre chose?
D'abord, le consentement, c'est une défaite dans le sens que ça n'agit pas. Le consentement n'agit pas. Et c'est bien ça son problème d'ailleurs. C'est qu'il consent. C'est un petit peu comme la dérobade, quoi. C'est une manière sans arrêt de ne pas répondre présent. Donc oui, en face, il y a la vigilance nécessaire, le fait d'être éveillé, d'être aux aguets, et de rien laisser passer. Après, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Parce qu'en réalité, quand on regarde l'histoire, c'est toujours grâce au consentement que les choses ont eu lieu. La Shoah elle-même n'aurait pas pu avoir lieu sans le consentement européen. C'est-à-dire le consentement, on le sait, hein, de milliers de gens qui ont fermé les yeux, de conducteurs de trains qui ont emmené les gens, de chauffeurs de bus, de gouvernements collaborationnistes comme la France, bien sûr, mais aussi... voilà, sans ce consentement-là, c'est la complicité de l'Église, enfin, on pourrait aller loin. C'est Christian Ingrao, d'ailleurs, hein, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur la période nazie et qui m'avait fait l'honneur d'être à mon jury de thèse, qui parle beaucoup de ça, puisqu'il s'interroge, comme beaucoup, hein, sur cette espèce de chute de la responsabilité, comment des intellectuels nazis ont pu... qui ont permis l'horreur. Donc, alors, bien sûr, il ne faut pas être parano, hein, comme disait De Niro dans un film, tout en rajoutant, mais il faut dire que les parano ont parfois des ennemis. Donc, il ne faut pas tout ramener au pire, mais le consentement actuel, oui, il est lourd d'un écho... qui est un peu vertigineux, parce que il nous rappelle que, et c'est valable pour le reste aussi, hein, mais c'est l'antisémitisme est une vision du monde, il faut bien comprendre ça. Donc il est là, il est prêt à l'emploi, il est régulièrement là. Voilà, on peut le prendre, on peut le...
Il y a les matériaux, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais.
Comment ?
Il y a tout ce qu'il faut, effectivement.
Il y a tout ce qu'il faut, il y a un coupable, il y a cette phrase-là, je crois, de Maurras, l'antisémitisme, le juif par lui, tout. Voilà, tout s'explique, tout se comprend, c'est formidable. Voilà, il avoue lui-même cette espèce de... voilà.
Autour de nous, sur des tables non pas amicales, mais dans le quotidien, autour d'un repas, quand on évoque de manière assez calme enfin, ces problèmes, beaucoup de gens ne comprennent pas et considèrent que le juif en fait est différent et que c'est assez insupportable du fait notamment qu'il pourrait avoir une religion, parce que beaucoup de gens sont très loin de ces questions maintenant dans notre pays, et puis qu'il mange de manière particulière, il s'habille parfois de manière particulière, et même ça, aujourd'hui dans des milieux qu'on disait avant éduqués, même ça on entend des gens qui me disent « bah oui, mais ils l'ont bien cherché parce que… mais pourquoi être différent ?» Enfin, vous voyez le niveau de… Là, vous êtes un peu désemparé. Que dire et que faire?
C'est sûr que le juif, on ne lui pardonne pas de ne pas avoir communié. Hein, donc, il est la différence et la singularité coupable incarnée qui se reproduit et se reproduit à l'infini. Après, cette différence, en réalité, est-ce que ce n'est pas la condition humaine? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut justement…
Mais là, j'interroge là.
Avancer, oui, c'est la singularité qui est peut-être la condition de l'universel, puisque nous sommes tous différents, quelle que soit la façon de s'habiller ou de rechercher une espèce d'harmonie unanime, anonyme. Dans l'histoire, ça a souvent mal tourné. On pense au totalitarisme, évidemment, et cette idée que finalement, il faudrait que rien ne dépasse. On pense aux masses avec le petit livre rouge, on pense aux grandes messes nazies. Non, la démocratie, la liberté, c'est toujours, comme disait Rosa Luxembourg, celle de penser autrement. Et puis, c'est séparation, la séparation, la fameuse distinction qu'on reproche aux Juifs. Mais elle est valable pour tout le monde.
Nous sommes donc avec Brigitte Stora, je rappelle, docteur en psychanalyse et essayiste. Et nous évoquons le mouvement des guerres de la paix. Je pense que nous allons bientôt conclure donc cette rencontre. Vous pourriez peut-être nous rappeler un petit peu quels sont actuellement les projets de ce mouvement et un petit peu comment vous voyez la suite par rapport à l'actualité qui est assez sombre.
Bon, il y a plusieurs projets. Il y a un film, un très joli film qui est sorti, qu'on peut voir sur Public Sénat et qui va sortir sur France Télévisions, qui s'appelle « Résister pour la paix ». De Anna Assouline. Donc il s'agit d'abord d'un témoignage. On a besoin déjà d'entendre autre chose. Parce qu'on est quand même aussi dans un monde, qu'on le veuille ou non, qu'on soit accro des réseaux sociaux ou seulement lointain, on est souvent abreuvé de la même chose. On a nos amis Facebook ou autres qui répètent à peu près les mêmes choses parce que les autres, on les a virés ou on ne veut pas les entendre. Donc, on est de plus en plus dans des tunnels où il y a des logiques du clash, des logiques de « je ne vous écoute pas » parce qu'on voit sur les plateaux télé la petite phrase qui va faire le buzz. Ça fait quand même des années qu'on est habitué à ça. Tout ça est un appauvrissement, un grand appauvrissement. Donc, rappelez, les fondamentaux, la nécessité du dialogue, l'écoute. Non, finalement, l'autre me ressemble. Tiens, il est endeuillé comme moi. Ça fait déjà partie d'une manière de penser, avec un A, tous nos mots actuels. Alors il y a des initiatives qui sont prévues. Il y a probablement des prix Sakharov qui vont être octroyés aux femmes israéliennes et palestiniennes. Il y a des initiatives, nombreuses, qui ont été prises, y compris là-bas, pour proposer des plans de paix. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est horrible, mais on n'y échappera pas. Souvent, on dit, on est condamné finalement à l'espoir, parce que sinon, c'est quoi l'alternative? Pour le reste, il faut tenir. Je sais pas de quoi le monde sera fait. Je me dis toujours qu'il y a ça, Il y a ce grand mouvement, mais peut-être qu'il manque de direction. Un mouvement vers la solidarité humaine, vers la prise en compte. En France, on est dans une société, par exemple, très métissée, qui l'accepte de plus en plus. Et par ailleurs, on a des discours délirants qui ne comme s'ils ne prenaient pas en compte cette réalité. Que ce soit,
pas à la réalité,
mais pas du tout,
de notre pays.
Qu'il s'agisse des discours du Rassemblement national ou même des discours identitaristes des indigènes de la République ou que sais-je, on se demande de qui il parle en réalité. Mais la question, c'est quand même, voilà, c'est toujours la bagarre hein, entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire qui va finalement gagner cette guerre de soit la vie ou la mort. C'est comme dans le Deutéronome, j'ai placé devant toi la calamité ou le bien, la vie ou la mort, et tu choisiras la vie. Je crois que voilà.
Très bien. Madame Brigitte Stora, je vous remercie pour cette interview. Je rappelle que vous êtes docteur en psychanalyse et essayiste, que vous avez commis il y a peu de temps un livre qui s'appelle « L'antisémitisme, un meurtre intime » aux éditions Le Bord de l'eau dans la collection Documents. Merci beaucoup pour cette
Merci interview. À vous. Merci.
النور والحقيقة في الصحوة.